Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Vous écoutez
RMC.
RMC. 7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian PC.
Nous sommes de retour, 7h09, le week-end des experts et après le jardin et avant de retrouver tout à l'heure la forme, la santé, c'est la maison 7h-8h avec Christian Pessereau. Bonjour monsieur Christian.
Eh bien bonjour monsieur François, nous sommes carrément à la foire du trône.
Ah ben écoutez, pourquoi pas,
mais... C'est sympa d'ailleurs.
Oui, c'est vrai, c'est très sympathique.
Mais ça a plus lieu, foire du trône en ce moment.
Je pense que là oui, en ce moment elle est un peu plus calme.
C'est ça.
Tout à l'heure, on va parler des avocats, Christian. Les avocats dans les litiges de la maison.
Oui, voilà, on va parler de tous ces problèmes que vous rencontrez parfois avec des entreprises, avec l'administration, pourquoi pas. Et puis donc, on a ce matin Maître Schaeffer, qui est un avocat spécialisé dans ce type de litige. Donc, n'appelez pas trop nombreux, parce que je sais qu'ils sont nombreux, les problèmes de litige, mais on va pouvoir évoquer cela. Donc, dans le détail.
Alors, n'appelez pas trop nombreux, mais appelez un peu quand même.
Oui,
hein, bien
oui,
sûr.
D'accord.
Hein. Christian Pesset, qui est le seul animateur qui dit qu'il ne faut pas appeler une radio. C'est quand même fort, quand
non,
même.
Mais je sais que. Félicitations. Mais j'ai vu ce matin qu'il y avait déjà la foule devant la porte à propos des litiges.
Ah oui. Hein. 3216, l'appli RMC Direct Studio. N'hésitez pas. Justement, vous voulez contacter notre avocat, c'est le moment ou jamais. Dans un instant, on va revenir sur ma prime rénov. Hein.
Oui.
C'est parti, donc vous verrez que ça se complique. Bah oui, ça aurait été trop simple.
Bien sûr.
Si ça avait été simple, justement. Bienvenue dans ce rendez-vous de maison, c'est parti. On attaque avec Jean qui nous attend au 32-16.
Bonjour l'équipe.
Bonjour Jean de Carrosse.
Bonjour Jean.
Bonjour François, bonjour Christian.
Oui, bienvenue.
Toute l'équipe, bien sûr.
Mais oui. Évidemment. Qu'est-ce qui vous arrive à Carrosse, Jean ?
Bonjour, je voudrais connaître l'avantage de la chaux. On a conseillé à mon fils de crépir les murs intérieurs de sa maison, du garage, à la chaux.
D'un enduit à la chaux.
Un enduit à la chaux.
Bon, pas seulement de la chaux, parce que ça existe aussi. C'est, vous savez, dans les étables,
oui.
on passe de la chaux à un lait de chaux blanc qui permet de, à la fois d'éclaircir peut-être un peu l'ambiance, mais surtout qui est antiseptique. Alors, la chaux, c'est un matériau ancestral, hein, c'est un matériau souvent utilisé dans la restauration des habitats anciens, des maisons anciennes. Alors, l'enduit à la chaux. Alors, c'est très mode, hein, il faut bien le dire. Alors, c'est quoi les avantages ? Le premier avantage, c'est que c'est plutôt joli quand c'est bien fait. Donc ça, c'est pas mal. L'autre avantage, c'est que c'est pas cher par rapport à certains produits du commerce. Donc ça, c'est pas mal non plus. Ensuite, on dit, on ne fait pas que dire, c'est vrai aussi, que c'est un bon régulateur d'humidité, un régulateur d'hygrométrie, comme on dit. Alors, c'est bien parce que ça permet un petit peu une respiration des murs, mais encore que je sois toujours assez sceptique sur la respiration des parpaings qu'il peut y avoir en dessous ou des pierres. Ça c'est un petit peu, je vais pas dire écolo-bobo, mais un petit peu parfois, parce que ça peut aussi se comporter comme une éponge si c'est très humide. Hein, il faut bien voir cela. Sachez que ça n'est pas aussi durable qu'un enduit du commerce avec des produits de synthèse. Ça veut dire que faut imaginer que tous les 2, 3, 4 ans, vous avez des chances d'avoir besoin de refaire votre enduit qui va peut-être par endroits cloquer, se décoller, surtout si ça n'a pas été fait complètement dans les règles. Bon, il faut faire, si c'est vous qui deviez le faire vous-même, je ne sais pas, mais il faut faire attention, notamment comme tout liant hydraulique, parce que la chose, c'est un liant hydraulique, hein, c'est comme le ciment, c'est-à-dire ça durcit. Avec l'eau. Donc il faut faire attention de pulvériser un peu d'eau sur le support sur lequel vous allez appliquer l'enduit, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est votre support qui Vous avez vu comme je fais bien là, qui va aspirer, qui va boire toute la flotte. Et donc, du coup, votre lion hydraulique, eh ben, il a moins d'eau et donc il durcit moins et donc ensuite d'accord. Il peut être un peu friable. Bon, voilà. Donc c'est une bonne solution, surtout dans un environnement un peu rustique. Hein, je sais pas comment est la maison de votre fils, mais c'est un peu ça.
Oui. Hein, voilà. Oui, une maison ancienne.
Voilà, j'espère que j'ai fait à peu près le tour de la chaux.
Oui. Hein? Oui. Eh ben, c'est très bien, je vous remercie.
Mais je vous en prie, Jean.
Conseils.
Merci à vous.
Et puis, on va écouter le reste.
Ah ben, écoutez, ouais, j'espère bien. Parce que là, hein, si maintenant vous allez sur une radio concurrente, hein, alors que vous avez eu la réponse à votre question, Christian serait vexé.
Ce serait déloyal, faut bien le dire.
Mais bien sûr.
On surveille votre ligne là pour savoir si vous allez rester bien en ligne avec nous.
Jean, oui, bonne journée à Carrosse.
Au revoir.
À bientôt. Il est 7h14, Christian.
Oui.
Vous avez vu, les auditeurs restent et sont fidèles.
Mais j'en connais qui nous suivent depuis.
Depuis la nuit des temps.
Depuis la nuit des temps.
Mon Dieu.
Maintenant, c'est en décennies que ça se compte.
C'est vrai, ça fait beaucoup. Qu'est-ce que
pas
vous diriez.
Trop quand même, non.
Ben,
je voulais pas dire que je m'incruste.
Non, pas du tout, Christian. Pas du tout. Que diriez-vous du conseil de l'expert
maintenant? Je pense qu'on peut y aller.
On peut y aller.
Ben, oui.
Attention, c'est le conseil béton.
RMC, votre maison.
Le conseil béton.
Béton.
De Christian Pesset.
Alors, c'est notre saga MaPrimeRénov', les amis. Vous le savez, depuis plusieurs semaines maintenant, on vous en parle parce que derrière, évidemment, MaPrimeRénov', il y a des primes qui vont vous permettre de rénover votre maison.
Oui.
C'est tout nouveau.
Il y a quand même beaucoup d'argent.
Il y a beaucoup d'argent en jeu. Le truc, c'est que ça se complique.
Ben, ça se complique parce que, évidemment, c'est pas très simple quand on veut en plus être juste et être efficace. Donc, je pense que c'est l'objectif du gouvernement. On a eu la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, la semaine dernière dans cette émission, qui a tracé les grandes lignes de la politique du gouvernement en matière de soutien des ménages à la rénovation énergétique. Et puis, lundi de cette semaine, hein, le Premier ministre a détaillé les dispositifs MaPrimeRénov', qui va, je le rappelle, se substituer au crédit d'impôt qu'on connaissait depuis pratiquement 2005, mais même il y avait des dispositifs antérieurs. Vous savez, le crédit d'impôt, c'était un système qui faisait que vous pouviez déduire de votre impôt un certain pourcentage des travaux que vous aviez réalisés ou que vous aviez fait réaliser par un professionnel dans le domaine énergétique. Alors le principe maintenant, c'est quoi? C'est un subventionnement direct et non plus différé de l'aide, donc sous cette forme de réduction d'impôts et ou d'un chèque qu'on vous envoyait quand vous n'étiez pas contribuable. Donc maintenant, imposable, pardon, vous étiez contribuable, vous n'étiez pas imposable. Alors maintenant, donc c'est différent. Vous allez recevoir un virement normalement avant la fin des travaux. Je demande quand même complètement à voir comment ça va fonctionner. Et donc, ça se substitue aussi au programme Habiter Mieux de l'ANA. Donc, c'est le crédit d'impôt plus le subventionnement de l'ANA. Et ça concerne les propriétaires occupants, bailleurs maintenant. Et puis, on verra aussi que ça peut permettre la rénovation, notamment des parties communes, des copropriétés. C'est une nouveauté. Alors, on y a mis des plafonds de ressources, parce qu'à un moment, il y a eu tout et rien dans la matière. Il y a un moment, on était subventionné, quel que soit son niveau de revenu et au même niveau, c'est-à-dire 30% en gros. Et puis, on avait introduit récemment le fait que les déciles supérieurs étaient, c'est-à-dire les gens les plus fortunés ne touchaient plus rien. Maintenant, tout le monde va toucher, mais bien sûr, on va faire des tarifs, si j'ose dire. Alors, comme on ne sait pas bien lire, bien le gouvernement a mis des couleurs, vous savez, comme dans le métro à Bogota.
On les remercie.
D'accord. Donc, il y a MaPrimeRénov' bleu, jaune, violet, rose. C'est joli, hein. Alors, c'est une échelle de revenus qui va des plus modestes aux plus élevés. Alors, il y a un cinquième profil, je le disais, pour les copropriétés. Alors, les différents profils de couleurs correspondent donc à un barème de niveau de revenu. Alors ce barème, je vous le dis, je l'ai mis parce que c'est pas si simple que ça, c'est sur la page Facebook de l'émission. Donc allez sur la page Facebook de l'émission, parce que sinon même ce matin j'ai amené mon ordinateur pour avoir bien tout sous les yeux. Donc ce barème, eh bien vous pouvez le retrouver. Alors ça va être, c'est un barème qui s'exprime en montant, donc en montant de revenu fiscal de référence, et à partir de là ça va vous donner par type de produit ou par produit même, ça va vous donner le montant de la subvention. C'est là où les choses se compliquent un petit peu. C'est que donc, on va avoir, mettons pour une pompe à chaleur, on va avoir quatre possibilités, quatre prix, quatre montants de subvention en fonction d'une part de MaPrimeRénov, mais on y ajoute aussi dans ces tableaux que vous pourrez trouver sur les sites de l'administration, on y retrouve aussi la SC2E, les primes primes d'économie d'énergie, donc vous savez ce que vous donne ce qu'on appelle les obligés. J'espère que vous n'avez pas déjà perdu mon fil. Ça veut dire par exemple vous avez une grande surface alimentaire qui vend aussi du carburant, par exemple, eh bien, elle peut vous aider à remplacer votre chaudière. D'accord ? Bon.
Ça fait quelques années, on en avait déjà parlé.
Vous pouvez trouver un simulateur hébergé sur le site de faire.fr, faire.fr, c'est le site sur lequel vous pouvez trouver beaucoup de choses, y compris le recours à des conseillers, on va dire. Donc, c'est baptisé SimulAide. Alors, ça vous permet désormais de décrire votre projet, de connaître la prime rénov à laquelle vous pouvez prétendre en fonction de vos revenus, et ceci de façon anonyme, pour pas vous faire peur et dire que vous allez tout de suite être dénoncé au fisc. Donc, le simulateur, eh bien, il vous aidera également à voir le montant de ces deux heures. Il va y avoir donc aussi les primes régionales, locales. Enfin, tout ça, c'est un petit peu compliqué. Donc ça devrait être développé d'ici la fin de l'année. Alors, je vous détaillerai la semaine prochaine dans l'émission le parcours à suivre pour obtenir MaPrimeRénov.
Ah,
parce qu'il y a aussi un parcours un peu du combattant derrière.
Le parcours Koh-Lanta de la prime.
Voilà, c'est ça. Alors, je vous détaillerai donc tout cela la semaine prochaine. Je vous rappelle que vous pouvez obtenir aussi assistance auprès des conseillers FAIRE, sur le site www.faire.fr et un numéro de téléphone 0 808 800 700. Je répète, 0 808 800 700. Voilà.
Christian, on va revenir dans un instant. Merci pour tous ces détails. On n'a pas fini de parler de cette prime rénov, bien sûr.
Attention, ça peut, dans certains cas, pratiquement, vous savez, il y avait le 1 euro pour l'isolation, des choses comme ça. Pratiquement, ça peut mettre un reste à charge zéro pour les plus défavorisés.
Ça, c'est pas mal.
Et au haut du plafond, on est à peu près assuré d'avoir quand même 40% d'aide sur ces travaux. C'est pas mal.
Ce qui n'est pas négligeable.
Quand même pas négligeable.
Pas négligeable. 7h21, Christian revient dans un instant. On présentera notre invité. Nous allons recevoir Wilfried Schaeffer, qui est avocat spécialisé dans le droit immobilier. Bien sûr, toutes vos questions sur ce sujet dès maintenant. Et c'est vrai que les thèmes ne manquent pas. N'hésitez pas. 32-16, l'appli RMC Direct Studio. On revient juste après la météo.
RMC.
Pas d'embrouille, man, pas de litige.
Je répondrai qu'en présence de mon avocat.
Jusqu'à 8h.
Qu'il soit en location ou en propriété, il se trame des arnaques phénoménales derrière le logement.
Et Cléopâtre, comment ça avance pas les travaux?
Justement.
Depuis des mois, le chantier est resté en l'état. Les 110 mètres carrés sont tous sauf habitables. Et pourtant, l'entrepreneur est prêt à lui remettre les clés.
J'ai jamais vu des travaux qui finissent à l'heure.
Votre maison.
Eh bien, cette maison est, si tu veux, traversée vraiment de part en part par la frontière, donc elle est coupée en deux.
Oui. On est loin de la brochure promotionnelle. Une dalle de béton en guise de salon et des murs de parpaing à nu.
François Sorel.
Bah, ouais, vas-y, prends un avocat, ok, tu vas voir. Ok, ouais, c'est parti, allez, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Allez, on y va, c'est parti.
Christian Pessé.
Oui, c'est quand même pas aussi catastrophique que ça. Faut pas. Il n'y a pas que des problèmes et que des litiges, faut quand même le dire.
7h27, c'est RMC. Et oui, vous êtes au cœur de ce rendez-vous maison dans ce week-end des experts. Christian Pessé à mes côtés, vous l'avez vu. Et nous allons maintenant évoquer les litiges qu'on peut avoir dans le domaine de la maison avec notre invité.
Voilà, nous sommes avec Wilfried Schaeffer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat spécialisé donc dans les litiges de la maison. Votre cabinet est installé à Paris, c'est ça ?
Paris 15e, 10 rue Louis Vicat, près du Palais des Expositions.
Voilà, juste à côté donc de la porte de Versailles, on va dire pour simplifier. On retrouvera vos coordonnées sur le site et notamment sur la page Facebook de l'émission. Alors bon, faut pas non plus trop noircir le tableau. Il est clair qu'on parle toujours des trains qui arrivent en retard et pas des trains qui arrivent à l'heure. C'est clair et globalement ça se passe plutôt bien en France, il y a quand même beaucoup, beaucoup de chantiers et la plupart se passent bien lorsque surtout on a fait appel à un professionnel qualifié ayant pignon sur rue. Je rappelle que la meilleure des publicités, c'est encore le bouche à oreille. Et quand vous voulez entreprendre des travaux, eh bien, l'idéal, c'est encore de prendre un artisan, une entreprise proche de chez vous, ayant toutes les labellisations, toutes les certifications, avec, je rappelle au passage, le RGE, c'est-à-dire le label qui va vous permettre de toucher justement les primes, la prime Rénov' dont je parlais tout à l'heure.
Alors on a pas mal de questions, hein, Christian, oui, au 32-16. Je vous propose d'accueillir Sébastien qui est avec nous. Bonjour Sébastien.
Bonjour Sébastien. Oui, bonjour Christian, bonjour François.
Bonjour, bonjour. On vous écoute.
Voilà, moi, je me permets de vous appeler. C'était dans le cadre des garanties décennales. En fait, j'ai souscrit lors de la construction de ma maison une garantie décennale. Et j'ai appris que mon assureur avait déposé le bilan. Et l'entreprise qui m'a fait ma maison était assurée chez le même assureur. Donc à ce jour, je n'ai plus de garantie décennale. Je voulais savoir qu'est-ce que je pouvais faire éventuellement.
Alors, je rappelle ce qu'est la garantie décennale. La garantie décennale couvre tout ce qui ferait que le bien pourrait ne plus être dans sa destination. C'est-à-dire qu'en clair, que la maison pourrait ne plus être habitable. C'est pourquoi ça couvre essentiellement le gros œuvre, la toiture, les murs, les fondations, les fenêtres, mais d'autres parties de la maison également, et qui est donc assurée pour 10 ans par l'entreprise. L'entreprise s'assure, et vous, on vous demande, la loi, normalement, puisqu'il n'y a pas de sanctions. Si on ne la respecte pas, c'est la loi Spinetta. Et la loi Spinetta, elle vous oblige à prendre une assurance dite dommage ouvrage, qui fait que lorsqu'il y a des difficultés, notamment lorsque l'entreprise disparaît, eh bien vous vous adressez directement à votre assurance et votre assurance prend en charge le coût des réparations, ou bien vous commet une entreprise, ou bien discute avec l'entreprise, si elle existe encore, pour faire les travaux et vous indemniser. Alors ça, c'est de façon idyllique. J'en parle souvent, je ne cesse de répéter l'intérêt de la dommage ouvrage, mais vous apportez la démonstration qu'il y a eu des trous dans la raquette. Alors les trous dans la raquette, c'est quoi ? Eh bien, ce sont les assurances, on va dire européennes, hein, puisque c'est dans le cadre de l'Europe que ça s'est joué, c'est les assurances dites en libre prestation de services, les LPS, qui nous ont amené des assureurs, des assureurs exotiques. Je parie que vous étiez assuré par Elite, c'est ça ?
Absolument, c'est bien ça, oui, voilà. Tout à fait.
Pour avoir, alors, certainement chercher une... Alors, je ne sais pas, c'est vous qui l'avez cherché ou si c'est votre entreprise qui vous l'a donné.
Non, du tout. En fait, c'est par simplicité. L'entreprise qui construisait la maison avait fait appel à un courtier dans les environs de chez moi. Et du coup, je suis allé chez le même courtier. Il m'a orienté vers cette assurance.
C'est l'erreur. C'est que vous êtes allé chez le même assureur qui faisait la décennale et qui vous assurait en même temps en dommage ouvrage. Alors que ce sont des parties qui peuvent être en situation conflictuelle. Il y a une forme de conflit d'intérêts. Et pourquoi aussi? Et là, je vais taper sur les assureurs français. C'est que beaucoup d'assureurs refusent un dommage ouvrage ou ils vous font des difficultés pour avoir l'assurance dommage ouvrage. Alors, et puis parce que c'est moins cher, alors on est allé au moins cher, et donc ce dispositif avec un trou dans la raquette, parce que l'État français aurait très bien pu retirer l'agrément à de telles entreprises, et ça n'a pas été le cas. Alors il y a le fonds de garantie des entreprises, des assurances qui couvre les assurances françaises, mais pas forcément les assurances en LPS. Alors, sauf qu'il y a quand même une disposition, il faudrait que vous alliez voir le fonds de garantie des assurances, il y a quand même une disposition sur les travaux réalisés après le 1er juillet 2018, mais c'est peut-être pas votre cas. Dans les 40 jours, c'est une disposition des 40 jours, qui suivent le retrait d'agrément. Alors, c'est-à-dire quand l'État retire son agrément, dans les 40 jours, le fonds de garantie des assurances peut jouer. Mais je crains train de vous dire que vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Parce que pour l'instant, il y a aucune, pour l'instant, il y a aucune prise en charge globalisée de ce dossier, parce que les sommes sont en jeu, sont considérables. Et donc, il va y avoir des réassurances. Je pense que adressez-vous quand même donc au bureau de tarification, ce qu'on appelle le bureau de tarification des assurances, c'est à Paris, et demandez-leur où en est ce dossier. Et s'il y a une petite chance, c'est un peu comme les emprunts russes. Ça, on espère qu'il va y avoir quelque chose, mais pour l'instant, je suis pas très optimiste. Voilà.
Bon, mais écoute, en tout cas, merci de m'avoir répondu. Je vous souhaite une très bonne journée.
Voilà. Et merci Sébastien. Prenez des assurances, des assureurs français, prenez des assureurs chez nous, et surtout pas à Gibraltar, puisque là, en l'occurrence, c'était le cas. Il y avait des bureaux à Paris, mais c'était assuré à Gibraltar, et de Gibraltar, on ne sait pas très bien où ça allait.
Ouais. Bon, ben voilà le résultat. Merci en tout cas Sébastien. Si tout comme Sébastien, vous voulez poser vos questions à notre invité, notre avocat ou à Christian 3216.
Alors, maître Schaeffer, qu'est-ce qu'on peut attendre, c'est-à-dire quand on veut prendre, quand on a un conflit, qu'on veut prendre un avocat, j'en étais encore déjà précédent, un avocat, à quoi faut-il faire attention pour être sûr d'avoir un avocat compétent?
Alors l'avocat, comme toute profession, il y a des généralistes et des spécialistes. Alors il y a des mentions de spécifications qui peuvent être trouvées sur l'ordre des avocats. Vous avez aussi des praticiens très compétents, mais parce qu'ils ne pratiquent que la matière, mais qui n'ont pas forcément la mention de spécification. Après, les moyens de chercher, comme partout, il y a Internet. Ouais. Maintenant, c'est beaucoup pratiqué. Le bouche à oreille, méfiez-vous quand même, parce que l'aspect confiance peut aller. Peut vous emmener très rapidement vers un avocat. Mais le problème, c'est que la confiance n'entraîne pas toujours la compétence. Ouais. Donc, il faut quand même, il faut voir, quand vous discutez avec votre avocat, il faut quand même essayer de voir s'il maîtrise sa matière. Alors, c'est peut-être pas toujours évident pour un novice, mais voilà en gros les pistes à suivre.
Vous avouez que c'est pas simple, parce que moi, je peux vous dire, je vais donner cette expérience. Lorsque je prépare ce type d'émission, je m'adresse en priorité aux organismes professionnels. J'ai appelé l'ordre des avocats. Ils ont été incapables de me trouver un de vos confrères. C'est parce que moi, j'ai gratté, j'ai fait mon boulot de journaliste, mais il n'y a pas donc de, je dirais, il n'y a pas, quand on veut se faire soigner les dents, on va chez un dentiste, quand on veut se faire soigner le dos, on va chez un ostéo. Vous, il n'y a pas de qualification propre. C'est comme vous dites, c'est aller chercher un petit peu.
Il y a quand même les mentions de spécification, d'accord, de spécialisation. Mais aujourd'hui, un avocat peut dire qu'il est avocat en immobilier, même sans c'est remis en cause. Donc d'accord, c'est vrai que c'est pas évident.
Ouais. Nous avons Annie au 3216 qui nous attend. Bonjour Annie.
Bonjour messieurs.
Bonjour madame Annie.
Bonjour Annie.
Bonjour monsieur Christian.
Vous n'êtes pas la femme de Christian Pessé.
Non, je suis avec un Y, moi.
D'accord. Et vous savez donc que ma femme c'est avec un IE, donc oui. Et j'en profite pour faire un petit coucou à
Annie Pessé qui est une star, qui est beaucoup plus sympathique que vous.
Merci. En plus, Christian.
Annie, qu'est-ce qui vous arrive? On vous écoute.
Voilà, donc j'ai fait faire il y a 3 ans, une isolation par l'extérieur dans une maison que je loue. Parce qu'il fallait que je refasse la façade donc qui était moche. Ouais. Donc, autant faire ce travail.
Vous avez bien fait.
Donc voilà. Donc je me suis adressée donc à un façadier. Donc il y en a plusieurs dans la région du sud. Hein. Je suis près de Montpellier. Il y en a beaucoup. Et donc j'ai eu donc un bon retour sur ce façadier. J'ai dit bon, ben banco, je fais avec lui. Et donc il a bien travaillé, c'est impeccable, jolie couleur, l'ocre landaucien, c'est très joli comme couleur. Enfin, j'étais contente. Et puis 2-3 ans après, en changeant de locataire, je me suis rendu compte qu'il y avait des traces vertes en haut de, parce que c'était un 2 étages, hein, donc en haut de la façade. Oui. Donc il venait des gouttières. Les gouttières donc ne remplissaient pas leur rôle. Donc il y avait des grosses traces qui descendaient. Alors j'ai dit mais glace, alors ça va tout me salir. Donc j'ai appelé le façadier, il a envoyé son technicien, ouais, c'est rien du tout, on va agir. Et puis voilà, plus de réponse, lettre recommandée, et deux lettres recommandées, j'en ai composté une avant-hier, parce que j'ai pas de réponse, alors je sais pas quoi faire pour arranger ce problème, quoi. Et donc il est assuré, donc c'est sur une assurance de la SMABTP, qui est très connue.
Bien sûr.
Et alors donc là-dessus, je vois protection des façades. Je ne sais pas si ça rentre dans le cadre de la décennale ou si c'est la biennale. Biennale, je suis fouchie. J'ai plus rien à faire. Biennale, c'est passé.
Alors, je vais d'abord répondre sur l'affaire de la décennale ou pas, et je vais céder la parole à Maître Schaeffer sur la notion de poursuites qui peuvent être engagées. La décennale ne peut jouer que si ces dégoûts d'eau induisent un problème d'étanchéité, c'est-à-dire en clair si ça pénètre à l'intérieur. C'est-à-dire sinon, ça sera considéré comme un problème esthétique. Donc ça, effectivement, ça serait dans la biennale. Si vous avez de l'eau qui rentre dans la maison au niveau de ces dégoûts de chéneau, oui, ça pourrait être la décennale. Ensuite, si c'est simplement du verre esthétique, non. Ceci étant, on peut considérer qu'il y a une malfaçon parce que c'est pas normal qu'au bout de quelques années, vous ayez des traces de façade. Et là, je passe la parole à Maître Schaeffer. Qu'est-ce qu'il faut faire là ?
Alors, il y a aussi peut-être une autre possibilité qui a pas été envisagée, c'est la garantie contractuelle.
Exactement.
De 5 ans. Qui peut permettre, alors là, faut prouver le préjudice, le lien de causalité, avec l'intervention de l'entreprise. Et ça peut être, là, c'est 5 ans. Donc, vous pouvez toujours éventuellement agir sur ce.
Oui, jouer sur le défaut, c'est-à-dire que c'est pas normal qu'on ait une façade neuve avec des traces.
C'est ça. Donc ça permet de sortir de ces délais de 2 ans et de 10 ans.
D'accord. Ça c'est sur le fond, mais sur la forme, si l'entreprise ne répond plus, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Alors, si l'entreprise ne répond plus, faut absolument faire un premier courrier de mise en demeure.
Alors recommandé, j'imagine.
Oui, toujours en recommandé, bien évidemment, avec excusé de réception. Pour moi, c'est naturel, mais c'est vrai que c'est mieux, ça va mieux en le précisant. Là, il faut clairement exposer toute la situation, les fondements juridiques et faire des demandes très précises et dire je vous mets en demeure d'intervenir, de faire jouer votre garantie, par exemple de avoir un devis qui pourrait être un contre-devis pour dire les travaux coûtent tant, alors je vous mets en demeure de payer. Voilà, il faut vraiment que vous ayez un premier courrier.
Il faut que ça
courrier.
Soit très circonstancié.
Voilà, c'est ça. Pourquoi ? Parce que sur le fondement de ce courrier, vous allez devoir, si l'entreprise ne répond pas, saisir le juge.
Et là, c'est lequel ?
Alors le juge, si on est le cadre, on est devant le.
Ça dépend du montant.
Oui, c'est toujours selon. Alors on a c'est devant le tribunal judiciaire. Le problème, c'est que souvent ça va être un référé parce que vous avez un juge des référés parce que vous allez être. Si il y a contestation de l'entreprise, vous allez être obligé de faire ce qu'on appelle une expertise judiciaire.
Ah oui, mais alors on la paye là.
Ah oui, alors là, c'est le problème. Alors, il faut vérifier si vous avez une protection juridique.
Votre assurance, hein.
Oui, dans votre habitat.
Oui, alors, oui.
Qui peut aussi vous aider à faire le courrier, hein. Ça, pensez-y. Oui. Après, si vous n'êtes pas capable.
On n'a pas ce réflexe, hein, mais on peut avoir des aides comme ça.
Hein, ah oui, ils vous aident toujours, hein, protection juridique de la maison, et aussi qui peuvent vous aider à faire le courrier et même vous donner un avocat.
Oui.
Qui peut faire le courrier et c'est conseillé de le faire par un D'accord. professionnel. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a des déboutés de demandes en justice parce que cette phase amiable n'est pas. C'est pour ça que j'y reviens.
Il faut démontrer qu'on a fait
un premier courrier, voire deux, qui ont été très circonstanciés avec toutes les demandes. Sinon, les juges se saisissent de ça pour vous débouter et passer à l'affaire suivante parce qu'ils sont très chargés.
Constat d'huissier aussi, non ?
Un constat d'huissier très important, évidemment. Ça sera pour la demande d'expertise. Aujourd'hui, on n'a pas le choix et malheureusement, l'expertise judiciaire, ça coûte très cher et ça risque de vous emmener très loin. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de meilleur système pour faire condamner une entreprise.
Mais si on revient dans un instant, petite pause.
On va parler vice caché.
Voilà, et puis on s'intéressera au cas d'Émilie, Christian, qui vient d'apparaître sur le standard RMC. On va étudier son cas, on la retrouve dans une minute. 32-16, l'appli RMC Direct Studio, à tout de suite.
RMC jusqu'à 8h.
Votre maison.
RMC
jusqu'à 8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Le retour de votre week-end des experts, c'est la maison, 7h48. Christian Pessé à mes côtés, bien évidemment. Et puis notre avocat, Wilfried Schaeffer, avocat spécialisé dans le droit immobilier. Christian, Émilie nous attend au 32-16.
Bonjour Émilie.
Bonjour Émilie.
Bonjour.
Bienvenue Émilie, on vous écoute.
Alors il y a 2 ans, j'ai acheté une maison qui date de 1980. Et il y a eu une entrée qui a été construite après la maison principale sur une deuxième fondation. Et avec la sécheresse et un terrain argileux, l'entrée est en train de se séparer de la maison.
C'est embêtant, ça.
Je peux passer mes doigts entre les deux, en fait.
Attention de ne pas vous coincer.
Oui, oui. Et je voudrais savoir s'il y a une autre solution déjà que de démolir et reconstruire. Et dans un deuxième temps, j'ai contacté mes assurances. Et ils me demandent une date de construction de cette entrée. Et en fait, la mairie s'est rendue compte que l'entrée a été faite sans permis de construire. Donc j'ai appelé le notaire qui m'a vendu la maison. Et il m'a répondu que comme cela devait faire plus de 10 ans que l'entrée avait été construite, il n'était pas censé être au courant et donc j'avais aucun recours.
Alors, sur le plan technique, avant de passer au plan juridique, il y a évidemment des solutions, mais ce sont des solutions qui sont onéreuses. Il y en a deux, ça s'appelle les micropieux béton qu'on va couler pour soutenir la construction qui a été ajoutée sans fondation suffisante certainement. Et puis il y a aussi l'injection de résine dans le sol, c'est une structure comme Uretec qui fait cela. Et donc on injecte, c'est relativement simple, là on injecte de la résine et on peut même arriver à redresser la construction, si bien qu'on pourrait même arriver à resserrer votre fissure. Mais ça coûte cher. Donc il faut voir maintenant si l'intérêt que représente cette extension, est-ce que ça vaut le coup de faire cela. Peut-être que vous pourriez en profiter aussi pour le faire pour l'ensemble de la maison, parce que si vous êtes en terrain argileux, vous allez avoir des conséquences un jour ou l'autre sur le reste de la maison par le mouvement du terrain. Maintenant, on passe sur le plan juridique. Maître Schaeffer, qu'est-ce qui va se passer là, s'il n'y a pas eu de permis de construire et que la maison, il y a plus de 10 ans en plus que la maison a été construite?
Juste une question. L'extension, elle a été faite quand?
Je sais pas.
Eh oui. Et le problème, c'est ça, c'est que là, si vous avez acheté la maison dans les années 80, bon, il y a plus rien à faire parce qu'en fait, le délai c'est 2 ans à partir de la découverte du vice ou dans les 5 ans de la vente. Donc, alors après, sauf aller à chercher, s'il y a eu une entreprise qui est intervenue, aller chercher les garanties décennales de l'entreprise.
Si ça a été construit depuis moins de 10 ans.
C'est ça. Il faut que ça a été construit depuis moins de 10 ans.
Vous l'avez acheté quand, votre maison?
80.
Il y a deux ans.
Vous avez acheté il y a 2 ans, mais vous pensez qu'elle a été construite dans les années 80, mais vous ne savez pas quand l'extension a été faite. Et si elle a été faite sans permis de construire, les assurances vont dire, il n'y a pas de permis de construire. Non, ils vont pas.
Sauf s'il y a une entreprise qui est... Alors, il y a deux choses. Si le vendeur a fait il y a moins de 10 ans, par une entreprise ou soi-même, les travaux de l'extension, vous bénéficiez de la garantie décennale du vendeur, qui doit, même si c'est un particulier, vous la garantir pendant 10 ans, et éventuellement de l'entreprise à laquelle il aurait fait appel.
À condition qu'il ait pris une dommage ouvrage, parce que sinon c'est la décennale de la...
Il vous doit quand même la décennale à titre particulier, voilà. C'est-à-dire que lui vous doit le refaire ou payer les travaux.
Vous devez simplement faire cette petite enquête.
Merci beaucoup, Émilie.
Beaucoup de sujets à traiter, mais on y reviendra, on a le temps.
Oui, bien sûr, et puis n'hésitez pas, c'est vrai qu'on a beaucoup de questions aussi, je pense qu'il faudra y revenir, mais forcément quand on touche au litige, vous êtes très nombreux à nous appeler pour réagir. Merci beaucoup, Wilfried Schaeffer, d'avoir été avec nous.
Site internet, c'est quoi?
Alors, j'ai Schaeffer-avocat immobilier, et j'ai un autre site qui s'appelle L'Opérationnel, L-A-W-P-E-R-A-T-I-O.
On mettra sur le site.
Oui, je vous laisserai une carte.
D'accord, merci pour votre carte. Merci, Maître Schaeffer.
Très bien, il est 7h52. Christian, on termine rapidement avec votre coup de cœur.
Oui, bien, mon coup de cœur, c'est le projet de décret qui est dit décence. C'est quoi? C'est un décret qui définira un seuil d'indécence énergétique des logements qui sont loués en dessous duquel, bah justement, il sera plus possible de louer un appartement ou une maison qui sont des passoires thermiques. Et donc, forcément, qui sont très inconfortables, pour ne pas dire dangereux pour la santé. Je vois Christian Rica qui est rentré, il pourrait en témoigner. Ça peut devenir une passoire thermique, ça peut devenir dangereux pour la santé de ses occupants. Alors, ce sont aussi des logements qui sont ruineux en dépenses de chauffage pour les locataires. Alors, un texte est en préparation. Il viserait les logements, alors c'est un peu technique, mais qui consomment plus de 500 kWh par mètre carré et par an en ce qu'on appelle l'énergie finale. Autrement dit, ceux qui sont classés G, vous savez, dans l'échelle, oui. Thermiques, de l'étiquette énergétique, ça entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Et donc, déjà, à ce moment-là, le 1er janvier 2023, on ne pourrait plus louer des logements classés G sans faire des travaux, pour lesquels travaux qui peuvent être aidés très largement. Alors, vous savez, on avait accueilli Marjolaine Meunier-Milfer, là, la députée de l'Isère, chargée co-animatrice du plan de rénovation des bâtiments. Eh bien, elle considère, elle, que pointer le seul G est insuffisant, et elle serait d'avis, elle, de pointer le seuil F. Elle dit un certain nombre de dispositifs d'aide et donc on peut existe et donc on peut se permettre de fixer un seuil plus ambitieux. Alors il va y avoir de toute façon un échelonnement d'exigences qui va être fixé entre 2023 et 2028. Au-delà de ce décret, c'est finalement l'obligation de travaux dans les passoires thermiques qui se profile. On va aller vers ça. Et au niveau de l'allocation, notamment des logements précaires, des logements pas chers, eh bien, je trouve que c'est une très bonne chose.
Christian, on sera là la semaine prochaine. Peut-être qu'on reviendra sur MaPrimeRénov', hein, puisqu'on voit que vous avez été très nombreux à réagir, à ne pas comprendre comment ça fonctionne, etc. Donc voilà, peut-être une spéciale MaPrimeRénov', Christian, si ça vous va.
Oui, ça me va tout à fait.
Allez.
J'ai mon ordinateur, j'ai mes tableaux, j'ai tout.
Alors là, franchement, Christian PC est connecté, mesdames, messieurs.
Absolument.
Autre Christian qui arrive, il est là. Christian Rica, bonjour, mon cher Christian.
Bonjour.
On se retrouve dans un instant.
Oui, grande émission que vient de faire Christian PC.
On se retrouve dans un instant pour la forme et la santé avec Christian Rica. À tout de suite.